Bonjour, samedi 10 octobre, ravi de vous retrouver. Comme chaque semaine, nous allons voyager afin de revivre 7 jours d'actualité grâce au reportage des envoyés spéciaux et des correspondants de RFI.
Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
À écouter aussi sur l'application gratuite RFI Pure Radio, elle est fort pratique sur le site de la radio et sur votre moteur de recherche préféré. Nous partirons pour la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Mali par exemple. Et à propos du Mali, il nous faut revenir bien sûr sur la libération de Sophie Petronin après une captivité de 4 ans. Écoutez-la quelques heures seulement après sa libération au Mali.
Ma santé, elle va très bien, je suis en pleine forme. Nos problèmes, nous venons de faire un check-up rapide avec le médecin qui est accompagné et tout va bien, tout est en ordre, et pas de problème.
Et 4 ans, ça a été long?
Un peu, mais j'ai transformé la détention, si on peut dire, en retraite spirituelle. Comme ça se passe mieux. J'étais dans l'acceptation de ce qui m'arrivait, je n'ai pas résisté. Oui, ça se passait bien, l'air était sain, bon. J'écoutais RFI tous les vendredis. J'ai eu les messages et même au début, une de vos collaboratrices a dit « Si elle entend ce message, j'espère qu'il la réconfortera. » Voilà, j'ai entendu. Alors dites-lui que oui, il m'a réconfortée.
Sophie Petronin, donc, est arrivée à Paris hier midi. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un des grands historiens français, en la personne de Michel Vinocq. Il vient d'écrire « Jours anciens » chez Gallimard. Bonjour Michel Vinocq.
Bonjour Pierre-Edouard Deldic.
Je suis ravi de vous accueillir à ce micro. Vous êtes spécialiste d'histoire contemporaine, dois-je le rappeler, de l'histoire des idées également, auteur de nombreux livres de référence désormais, dont des biographies, je pense à celle de Clémenceau par exemple. Vous êtes éditeur également, fondateur de la collection L'Univers historique au Seuil, qui a rendu service et qui rend toujours service aux étudiants en histoire, et de la précieuse collection Point Histoire. Vous êtes à l'origine de la création de la revue L'Histoire aussi en 1978 avec un certain Jean-Noël Jeannonnet qu'on connaît bien dans cette émission. Et j'ai voulu vous inviter pour que nous fassions des allers-retours entre l'époque que vous racontez dans ce livre et l'histoire qui se fait. Ça s'appelle l'actualité. Pourquoi d'ailleurs vous racontez Michel Vinocq? Vous avez commencé à le faire dans un livre précédent qui s'appelait « Jeanne et les siens », je crois que c'était il y a une dizaine d'années, en 2003, même plus de 10 ans.
C'est vrai, et je ne l'ai pas fait, comment dirais-je, sans scrupule, parce que l'historien, évidemment, est attaché à la règle de l'impartialité, de l'objectivité. Et oui. Mais, vous savez, dans notre vie, il y a comme cela des petites trahisons professionnelles qui s'imposent sans qu'on y réfléchisse trop. Pourquoi ? Parce que dans mon cas, je ne suis pas le seul dans ce cas, mais dans mon cas, j'ai été ouvert véritablement à l'histoire par les circonstances dans lesquelles je vivais dans les années 1950. C'était la guerre d'Algérie. Commencé à la fin de 1954, j'étais à ce moment-là au lycée. Deux ou trois ans plus tard, j'étais étudiant à la Sorbonne, en littérature d'abord, puis en histoire, et j'étais très militant politique. Avec beaucoup de mes camarades étudiants, nous étions très hostiles à la guerre d'Algérie. Nous étions très favorables à l'indépendance de l'Algérie et de l'ensemble des colonies. Bref, nous étions anticolonialistes. Et dans cette mouvance, dans cet exercice de militantisme, la question de l'histoire s'est posée, évidemment. Car pourquoi la guerre d'Algérie? Qu'est-ce que c'était que la colonisation? Pourquoi un gouvernement socialiste dirigé par Guy Mollet pouvait-il entretenir cette guerre? D'où venait que ça n'en finissait pas? Et naturellement, il y avait un lien, si vous voulez, entre mon mode de vie existentielle, politique et étudiante et les études d'histoire. Voilà pourquoi il y a eu des passerelles très très rapidement entre l'histoire et ma vie personnelle.
Alors nous allons évoquer cette période de l'après-guerre que vous racontez dans Jours anciens. J'ai voulu que nous commencions cette émission avec une bonne nouvelle. Elles sont rares et la libération de Sophie Pétronin, ça vous inspire un commentaire ?
Écoutez, je ne suis pas très expert, n'est-ce pas, dans...
Non, mais une réaction humaine, tout simplement.
Mais humainement, quel soulagement quand même que d'entendre cette femme. Et ce qui frappe, c'est cette espèce de sérénité avec laquelle elle résume ces 4 ans de captivité. Là, je suis dans l'admiration.
Michel Vinocq, avant de poursuivre notre conversation, partons pour la Nouvelle-Zélande et pour parler d'une autre bonne nouvelle. Nouvelle-Zélande qui a apparemment réussi à dompter l'épidémie de Covid-19. À Wellington, mardi, Richard Tindiller.
La Nouvelle-Zélande peut se féliciter d'avoir, une fois encore, remporté la bataille contre le coronavirus. L'archipel de 5 millions d'habitants a de nouveau été efficace face à cette pandémie, car il y a tout juste 2 mois, un cluster avait été découvert dans la ville d'Auckland. Des contaminations qui n'avaient aucun lien avec des retours de ressortissants néo-zélandais depuis l'étranger, mais étaient bien le résultat d'une nouvelle vague de contamination non contrôlée dans la communauté. Un deuxième confinement était alors de rigueur dans la ville d'Auckland et un retour aux distanciations sociales dans le reste du pays. Mais depuis près de 2 semaines, il n'y a pas eu de nouveaux cas à Auckland et la Nouvelle-Zélande n'a pas enregistré de nouveaux cas positifs non contrôlés depuis près d'un mois. La première ministre Jacinda Ardern a également félicité les Néo-Zélandais d'avoir respecté le plan mis en place qui a marché une deuxième fois, dit-elle. La Nouvelle-Zélande reste un pays peu touché par cette pandémie avec seulement 25 décès et moins de 1900 cas liés au Covid-19. Et ce succès tombe à point pour la première ministre puisque les Néo-Zélandais sont appelés à voter pour les élections nationales dans une dizaine de jours.
Avant de nous retrouver, Michel Vinocq, et après la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, avec le retour fort peu discret, cela va de soi, de Donald Trump à la Maison-Blanche après un passage à l'hôpital pour cause de Covid-19, toujours lui. Correspondance lundi d'Éric De Salve.
Tout juste sorti de l'hôpital, Donald Trump est tout de suite monté sur le balcon Truman. Au vu de tous, il a ostensiblement enlevé son masque en prenant fièrement la pose pour la photo, les 2 pouces levés comme en signe de victoire sur le coronavirus. Donald Trump est ensuite entré dans la Maison Blanche sans masque, sans se soucier donc du risque de contamination des employés de la Maison Blanche. Une attitude immédiatement qualifiée d'irresponsable par de nombreux commentateurs. Donald Trump a été testé positif il y a seulement 4 jours. Il est donc encore très contagieux. 13 de ses plus proches collaborateurs ont déjà été testés positifs au Covid-19. Aujourd'hui, la Maison-Blanche est un cluster, mais son locataire, pourtant placé sous assistance respiratoire vendredi, n'en a cure. Il continue de minimiser. Ne laissez pas le coronavirus prendre le dessus. N'ayez pas peur, dit-il dans une vidéo. Je me sens encore mieux qu'il y a 20 ans. Je suis peut-être immunisé, va jusqu'à dire Trump, qui fait encore l'objet d'un traitement expérimental. Son médecin, lui, est beaucoup moins catégorique. Le président sera uniquement considéré comme tiré d'affaire si son état est toujours stable lundi prochain.
Alors je vous signale la diffusion sur les réseaux sociaux de RFI et de France 24 d'une série de 6 vidéos de 5 minutes chacune réalisées par la rédaction de RFI consacrée à la diplomatie selon Trump, donc diffusion du 7 octobre au 3 novembre prochain. Je suis sûr, Michel Vinocq, que l'homme que vous êtes, que l'historien que vous êtes n'est pas insensible à, pour de multiples raisons, à Donald Trump.
Certes non, parce que il y a Trump bien sûr... ces déclarations de Matamor, cette espèce de figure du bureau américain qui est consternante. Mais au-delà de Trump, la vraie question, parce que Trump ne durera pas plus de 4 ans encore s'il devait être réélu, c'est l'avenir de la démocratie américaine. Voilà un régime que l'on a depuis Tocqueville, n'est-ce pas, au XIXe siècle, vanté comme exemplaire d'une société démocratique, égalitaire, où les institutions très solides présentent pouvoir et contre-pouvoir qui peuvent s'équilibrer. Et voilà que, depuis quelques années, tout cela est en train de se dérégler. Le débat des deux candidats à la présidence, auquel nous avons plus ou moins assisté, était dégradant. Dégradant pour Trump, mais aussi pour cette démocratie qui a été dans le monde, tout de même, exemplaire. Donc, pas de doute, il y a là, pour nous tous, Européens en tout cas, et habitants du monde entier, quelque chose qui se dérègle et qui nous inquiète fort.
Michel Winock, partons dans le passé une première fois avec ce livre, Jours anciens. Vous nous transportez avec les souvenirs, ces souvenirs d'enfance et de jeunesse, dans la banlieue parisienne des années 50 de l'après-guerre. Et vous signalez dans l'épilogue de ce livre que c'est un monde préhistorique presque.
Archaïque en tout cas.
Ouais. Vous écrivez ceci, Michel Winock. Nos genres de vie, nos façons de penser, nos conceptions du monde, nos convictions morales et politiques subissent des renversements qui s'apparentent parfois à des cataclysmes.
Ouais. Vraiment, le jeune homme que j'étais en 1955 à peu près, s'était endormi et arrivé aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, il n'en croirait pas ses yeux, et du reste, il aurait du mal à comprendre. Qu'il s'agisse de la société, des mœurs, de la politique, des loisirs, tout est complètement bouleversé. Nous avons vécu en 50 ans un renversement de civilisation. Songez par exemple à l'importance de l'Église catholique.
Qui est très présente hein, dans votre vie,
oui,
dans votre famille, qui était vraiment empreinte de catholicisme.
Je raconte à quel point nous étions largement conditionnés par le catéchisme, par les structures ecclésiastiques, par le patronage, les colonies de vacances, enfin vraiment. Et des petits camarades à côté, étaient eux-mêmes conditionnés, structurés par le Parti communiste, qui était une puissance. 25% des suffrages se portaient vers le Parti communiste. Et il y avait, dans les banlieues où j'ai vécu, ce qu'on a appelé la contre-société, c'est-à-dire un monde véritablement réglé, inspiré, par l'idéologie communiste et les pratiques de la collectivité du parti.
Banlieue, c'est Arcueil. Hein,
c'est Arcueil. Ça aurait pu être gentil, ville juive, hein, c'est ouais. Ça. Et alors, moi, j'allais au patronage, et mon copain, que je rencontrais à l'école quand même, qui était mon copain, lui, il allait au patronage, laïque communiste. Moi, j'allais en colonie de vacances avec les curés, et lui allait en colonie de vacances avec la municipalité communiste. Donc, il y avait vraiment à la fois deux mondes qui se faisaient face, qui ne se faisaient pas la guerre. Ça, c'est important. Je raconte en effet comment, au moment de la communion solennelle, n'est-ce pas, je suis dans une école laïque, dirigée par un directeur, on pourrait dire presque laïcard, en ce sens que quand on entre à l'école, il regarde si on a une croix, une médaille. Et si on a une médaille, c'était pas mon cas, mais peu importe, si on a une médaille, alors, hop, il fallait la rentrer tout de suite à l'intérieur de la chemise, il fallait pas la voir. Eh bien, ce même directeur acceptait très bien que, au mois de juin, au moment de la communion solennelle, les petits élèves qui avaient fait leur communion avec le brassard et tout, entrent à l'école et viennent proposer et viennent offrir les petites images pieuses, n'est-ce pas, qu'on avait à l'école, à l'instituteur qui était communiste ou en tout cas socialiste, en tout cas qui n'était pas du tout catholique. C'était une cohabitation heureuse.
Alors parmi les changements radicaux qui se sont produits, on parlera tout à l'heure de politique avec la 4e République, il y a la place des femmes aussi. Les femmes sont très présentes dans votre livre, Michel Winock, votre mère, vos sœurs qui ont joué un rôle très important. La place des femmes a d'évidence radicalement changé.
Ah, complètement. La preuve est que mon père, qui meurt en 45, n'avait de soucis professionnels que pour ses fils, parce que
Vous avez trois sœurs, hein?
Oui, j'avais trois sœurs et deux frères. Il n'avait en tête que de leur apprendre, mes frères, un métier. Et le métier, c'était pour lui, qui venait de la campagne, c'était un métier d'artisan. Menuisier, ébéniste, serrurier, oui, des métiers comme ça. Et mon frère aîné n'a pas fait d'études secondaires, ni mon frère, mes deux frères. Ils ont été mis, l'un dans une école de commerce de la ville de Paris, et l'autre dans un collège technique. Donc, eux, il fallait qu'ils aient un métier. Mais on ne parlait pas tellement de mes sœurs, parce que il est évident que elles deviendraient secrétaires, sténodactylos, elles se marieraient. Voilà. Elles étaient vouées au mariage, à la maternité, et que par conséquent, il n'y avait pas de quoi faire des plans sur la comète quant à leur avenir professionnel. Seulement, mon père est mort, comme je viens de le dire. Et ma mère, veuve, par conséquent, a dû assumer, évidemment, toutes les revenus de la famille. Heureusement, quand il est mort, mes frères étaient déjà, et sœurs étaient déjà assez grands, ils allaient travailler bientôt, ou ils travaillaient déjà. J'étais le dernier à être assez à sa charge. Mais néanmoins, ma mère est devenue caissière à la RATP, et moi-même, j'avais le scrupule de ne pas être trop à charge, et quand j'ai passé le baccalauréat, j'ai choisi une voie qui m'était offerte. À l'époque, les bacheliers, on leur offrait, ils étaient beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui, et on leur offrait des places. Et j'ai eu une proposition dans une société qui s'appelait la Compagnie du Niger français.
Qui m'intrigue et dont on reparlera un peu plus loin, cette société France-Niger. On va revenir à l'actualité, il est très plaisant de faire des allers-retours entre le passé et le présent. Je vous propose de continuer notre journal, en quelque sorte, de la semaine.
Sept jours dans le monde.
Michel Vinoc, partons maintenant pour le Caucase pour faire un point sur la situation des combats dans la région du Nagorno-Karabakh que se disputent, on le sait, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Un point à Gori au milieu de la semaine, signé Régis Janté.
Après 9 jours de combats qui n'ont cessé d'être plus violents de jour en jour, le bilan du conflit est difficile à établir. Aucun camp ne semble avoir pris un avantage décisif. Chacun enregistre manifestement des centaines de morts militaires et quelques dizaines de civils, tandis que les gains territoriaux de l'Azerbaïdjan semblent assez faibles, en dépit d'une nette supériorité technologique militaire. La bataille d'images au sujet de ces gains territoriaux fait rage également. Le ministère de la Défense azerbaïdjanais a publié ce mardi des vidéos montrant des zones libérées où a été planté le drapeau bleu, rouge, vert avec le croissant et l'étoile à 8 branches au milieu. Ce fut le cas notamment pour des villages fantômes abandonnés depuis 30 ans dans le district de Djebrail qui fait partie des territoires occupés au sud du Haut-Karabakh. Dans ces vidéos, le matériel militaire pris aux forces arméniennes y est aussi exhibé avec fierté.
Le président russe Vladimir Poutine a convié hier à Moscou les chefs de la diplomatie de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan pour tenter d'amorcer un dialogue. Une trêve y a été discutée, on vous en parle dans nos journaux. Direction les États-Unis à nouveau, Michel Vinoc, à moins d'un mois de l'élection présidentielle. Le vice-président américain Mike Pence et Kamala Harris, la démocrate qui brigue son poste, se sont affrontés mercredi sur la gestion du Covid-19 qui domine la campagne électorale américaine lors d'un débat aux enjeux accentués par les interrogations sur l'âge et la forme de Donald Trump et de Joe Biden également. Reportage à Salt Lake City où avait lieu ce débat, signé Eric Desalves.
La mine concentrée, deux étudiantes suivent le débat des vice-présidents sur un téléphone portable installé sur un banc devant les grilles de leur université d'Utah. À l'intérieur, Kamala Harris et Mike Pence s'affrontent, séparés par des vitres en plexiglas. Les étudiantes n'ont pas obtenu de place en raison du coronavirus. La pandémie, premier sujet du débat, un échec historique de l'administration Trump, dit Kamala Harris. Anna et Sophie sont d'accord avec la sénatrice de Californie.
On a bien vu ce qui s'est passé dans les pays qui ont réagi plus tôt. La situation n'a pas dégénéré comme ici. Elle a raison.
Moi, je suis terrifiée par leur gestion de la crise. Il n'y a aucune transparence et c'est super angoissant en tant que citoyen de n'avoir aucune information, de ne pas savoir ce qu'il se passe vraiment au milieu d'une pandémie aussi massive.
Très vite, l'avortement fait irruption dans le débat. Les étudiantes froncent les sourcils. Le vice-président des États-Unis, conservateur, évangélique, incarne à leurs yeux la menace que l'administration Trump fait peser sur le droit des femmes.
Carrément. En tant que femme d'à peine 20 ans, je suis plutôt progressiste. Je ne crois pas qu'il devrait avoir son mot à dire sur ce que moi ou n'importe quelle femme pouvons faire avec notre corps.
Et au même moment, devant l'université d'Utah, les forces anti-émeutes s'interposent entre quelques centaines de militants Black Lives Matter et de nationalistes pro-Trump dans un face-à-face tendu. Énième illustration d'une Amérique coupée en deux.
Suite de cette édition d'une semaine d'actualité en compagnie de Michel Vinoc, l'historien Michel Vinoc, qui publie Jours anciens, un recueil de livres, de souvenirs de jeunesse. Vous voulez dire un mot sur ce conflit, Michel Vinoc, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie à propos du Haut-Karabakh?
Ce qui me paraît toujours stupéfiant, c'est que les guerres territoriales, qui sont séculaires, qui existent, qui étaient le propre même des guerres, guerre de conquête, guerre de résistance aux conquêtes, etc. On pensait que, après la Seconde Guerre mondiale, ça devait être terminé. Bah, pas du tout. Pas du tout. Il y a quelque chose d'extraordinairement archaïque. Vous savez, il y a eu l'histoire du Koweït. Le Koweït, revendiqué par Saddam Hussein, appartenait à la communauté internationale, à l'ONU, et peu importe. L'Irak de Saddam Hussein envahit le Koweït.
1990.
Ouais. Alors ensuite, il y a eu l'histoire de la Crimée. Poutine qui récupère sans crier gare, sans demander l'avis de personne. Bon. Et aujourd'hui, voilà, l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui sont en conflit à propos d'une enclave arménienne en Azerbaïdjan. Il y a quelque chose quand même d'étrange, vous ne croyez pas, dans ces revendications de terrain, n'est-ce pas? Il faut que les États soient toujours un petit peu plus grands. Et puis, je n'ai évoqué que deux ou trois aspects de la question, songeons à la Chine, etc. Ça donne tout de même à réfléchir sur cette continuité quand même des passions humaines, des passions politiques, des passions étatiques, sur l'impérialisme qui est au cœur vraiment de tellement d'États. C'est étrange, nous ne sommes pas sortis encore de l'ère de la guerre. Le pape François dit « Ah bah la guerre, n'est-ce pas, plus de guerre ?» Mais il n'empêche que la guerre est à peu près sur tous les continents.
Oui, c'est pour ça que le prix Nobel de la paix a décerné son prix cette année à l'ONU, une nouvelle fois, à une agence d'ailleurs des Nations Unies, le Programme Alimentaire Mondial, façon d'encourager la paix, puisque c'est sa vocation. Michel Vinoc, repartons un instant dans les années 50, avec un hommage vibrant que vous écrivez, que vous faites, l'hommage de l'école, et notamment de l'école primaire, qui, et là il faudrait que je reprenne exactement la phrase que vous avez écrite, qui vous a décrasé. C'est l'esprit.
Oui, c'est sûr. Alors, l'école primaire, je l'ai pratiquée donc dans une banlieue de Paris, à Arcueil, dont la municipalité était communiste. Mes parents, eux, étaient catholiques, mais ça ne les empêchait nullement de mettre leurs enfants à l'école publique. Et cette école publique, c'était d'abord un creuset, précisément, entre des gamins qui appartenaient à toutes sortes de familles, parce que n'oublions pas que la banlieue a été constituée, surtout entre les deux guerres et après la guerre, par l'arrivée de Français et d'étrangers qui venaient de partout. C'est pourquoi je me sens pas un enraciné, c'est parce que j'étais à côté de gens qui venaient du Périgord, de Bretagne ou de Tchécoslovaquie. Et tous ces gens-là, eh bien, se retrouvaient, tous ces garçons, parce que, attention, la mixité n'existait pas, tous ces garçons, et de l'autre côté, toutes ces filles, se retrouvaient dans ce creuset. À qui avions-nous affaire? À des maîtres, l'instituteur. Et on sait que en France, depuis la Troisième République, c'est un personnage, en tout cas c'était un personnage sacré. Et il faut bien dire que ce sont ces instituteurs qui nous faisaient sortir très largement de l'ignorance. Alors ils étaient inégaux. Je cite parmi ces instituteurs l'un qui était assez médiocre et un autre qui a été pour moi vraiment un guide merveilleux. Un guide merveilleux aussi bien pour l'ouverture à la poésie, à la littérature. Il nous lisait du reste le samedi après-midi, on allait à l'école le samedi, il nous lisait le lundi après-midi du Victor Hugo, le 93 de Victor Hugo, et bien que il fût communiste néanmoins, il ne montrait jamais ses choix partisans. Il était avant tout, je dirais, un amoureux de la langue française, de la littérature française, de la France, disons, tout simplement.
Une semaine d'actualité.
Alors nous allons parler de l'actualité en France, justement maintenant, en ce mois d'octobre 2020. La reconstruction des routes arrachées, des maisons éventrées, des réseaux d'adduction d'eau ou d'électricité doit aller très vite, a dit le président Macron lors d'une visite mercredi à Breil-sur-Roya, un des villages touchés par les inondations catastrophiques il y a une semaine après le passage de la tempête Alex. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, parle d'un chantier à 1 milliard d'euros. Reportage d'Alexis Bédu.
Arrivé en hélicoptère dans le village de Tende, toujours inaccessible par la route et ce pour encore plusieurs mois, le président de la République rencontre des habitants sinistrés.
J'ai vu notre jeune gendarme qui en plus est blessé et qui a été avec ses points de suture.
En plus le gendarme était blessé. On s'est retrouvé pendant 40 ans sans aucune communication. Maintenant je suis impressionné que par la machine France se met en route, c'est impressionnant.
Un peu plus bas dans la vallée, Emmanuel Macron annonce la création d'un fonds Alpes-Maritimes pour permettre la reconstruction des infrastructures et des maisons balayées par les eaux.
L'État va contribuer, on a déjà enclenché pour les prochains jours 100 millions d'euros, mais ce seront plusieurs centaines de millions d'euros qui seront contribués pour pouvoir reconstruire. Reconstruire certains équipements essentiels et reconstruire aussi de manière résiliente et durable.
Des promesses qui ne convainquent pas totalement Sébastien Ollorant, maire de Breil-sur-Roya, un des villages les plus durement touchés.
Il a tenu des propos rassurants qui ne suffisent pas à ce jour à effacer mon inquiétude parce que je vois ce que nous avions, je vois ce que nous avons perdu. J'avoue qu'il me faudra plus que des propos pour que je sois véritablement rassuré et optimiste pour l'avenir.
Les élus du département réclament jusqu'à 1 milliard d'euros et débloquer rapidement pour reconstruire les routes et les ponts.
Reportage donc dans la région de La Roya. L'épidémie de Covid en France, maintenant plus que jamais à la une de l'actualité cette semaine, avec à Paris et dans la région parisienne la fermeture temporaire des bars et des difficultés dans l'ensemble cette fois des universités, ça va vous intéresser Michel Vinocq. Difficile en effet de tenir des cours dans les amphis, les amphithéâtres, alors il y a bien des cours à distance, mais ils ne font pas l'unanimité parmi les étudiants. Laurence Théo en a rencontré quelques-uns à Paris.
Entre l'opacité du masque et les lunettes embuées, difficile de deviner un visage. Bachir est en première année de licence de droit, les cours à distance ne lui conviennent pas.
Moi je pense que c'est pas bien, par exemple, pour moi. Je sais que je suis pas assez sérieux pour travailler chez moi, mais il n'y a pas le choix, donc on fait comme ça. Hein.
Pour Julia, de la même promotion, étudier à la maison n'est pas toujours matériellement possible.
Il y a des gens qui n'ont pas d'espace ou de chambre à eux. Et donc, en fait, le fait que les gens soient en cours chez eux, bah, ça va en faire décrocher. Et ça va faire décrocher encore une fois ceux qui sont les plus touchés, les plus précaires.
Brune, vive et menue, Louise déplore une vie universitaire au ralenti.
On ne sait pas combien de temps, d'années ça va durer. Et je pense qu'une scolarité avec que des cours en visio, ce n'est pas la même qualité que quand on est en fait en face à face avec des profs et qu'on peut aussi créer un esprit de promo en se voyant, en parlant, en échangeant. En fait, c'est hyper important aussi de se soutenir dans les études.
Étudiant à la faculté de Créteil, Julien alterne cours en présentiel et cours en ligne. Il prépare des concours et craint de ne pas être au niveau.
On va peut-être faire deux tiers de ce qu'on aurait dû faire. Moi, je suis en administration publique pour préparer les concours de la fonction publique. Donc, du coup, j'estime qu'en fait, c'est pas le niveau que je devrais atteindre pour pouvoir passer les concours de la fonction publique correctement.
Et dans ce contexte de crise sanitaire, de nombreux étudiants redoutent une fermeture temporaire de leur université.
Et après Aix-Marseille et Paris, quatre autres villes, Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne, vont basculer en zone d'alerte maximale, synonyme de nouvelles restrictions sanitaires pour freiner l'épidémie donc de Covid-19 qui s'aggrave. Je voudrais aussi rappeler que le Nobel de chimie a été attribué à deux chirurgiennes des gènes, en quelque sorte, l'américaine Jennifer Doudna et la française Emmanuelle Charpentier, deux généticiennes qui ont mis au point des ciseaux moléculaires, c'est leur nom, capables de modifier les gènes, une percée absolument révolutionnaire, et le Nobel de littérature a sacré la poétesse américaine Louise Gluck. Michel Vinocq, vous écoutez ce reportage sur ces étudiants face au Covid avec intérêt?
Oui, parce que on ne se rend pas toujours compte, quand on marche bien, à quel point l'enseignement, c'est un échange. Et un échange, ben c'est un partage entre un maître qui doit apprendre des choses et des élèves qui les reçoivent. Mais ce n'est pas seulement un échange vertical, de haut vers le bas. C'est un échange beaucoup plus subtil, parce que le maître, le professeur, doit comprendre ce qui intéresse ses élèves. Il doit comprendre ses questions. Et s'il voit même rien qu'à leur attitude, rien qu'à leurs yeux, à leur manière d'écrire ou de ne pas écrire, s'il comprend que sa parole n'est justement pas perceptible, pas compréhensible, alors il doit se corriger sans arrêt. On ne parle pas dans le vide. Or, la visioconférence,
c'est tout autre chose,
c'est ça, c'est de parler dans le vide.
Michel Vinocq, votre livre se déroule donc sous la 4e République, et on ne peut pas dire que vous donnez un visage positif à cette 4e République, notamment vers sa fin, dans ces dernières années, la fin des années 50, et notamment avec le gouvernement socialiste de Guy Mollet.
Il faut distinguer, si vous voulez, la politique du reste. Car la 4e République n'est pas une période si noire quand on songe à la création véritablement de l'État-providence, avec ses lois sociales, avec ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses. C'est un terme qui est faux, mais enfin, peu importe. Avec,
admettons, dans le livre, hein.
Une vingtaine d'années glorieuses à partir des années 50, 54, 55, c'est quand même un redressement magnifique. On avait parlé avant du miracle allemand, du miracle italien, et voilà qu'on se met à parler du miracle français. Donc, il y a eu, dans cette période, des gens pleins d'initiatives, des hauts fonctionnaires, des grands commis de l'État, des personnes privées, des chefs d'entreprise, qui ont remis véritablement la France sur ses rails. De ce point de vue-là, je ne condamne pas du tout la 4e République. Si je la condamne, c'est politiquement.
C'est ça, c'est le régime et l'instabilité gouvernementale qui l'implique.
Voilà. Alors, De Gaulle, on le sait, lorsqu'il a été président du gouvernement provisoire après la guerre, voulait une autre forme de régime, un certain régime qui ressemblait évidemment à ce que nous avons aujourd'hui, la 5e République. Mais il avait contre lui une majorité socialiste et communiste pour lesquelles il n'était pas question de renoncer au pouvoir de l'Assemblée. Résultat, il n'y avait pas, au cours de la 4e République, il n'y a jamais eu de majorité stable. Il ne s'agissait que de majorité aléatoire, instable, et par conséquent, les grandes décisions ne pouvaient pas être prises. Et moi, j'ai vécu, si vous voulez, un moment tout à fait étonnant dans cette 4e République, sur le plan politique, c'est l'arrivée au pouvoir de Pierre Mendès France, en 1954. Après 7 ans de guerre d'Algérie, il est enfin investi chef du gouvernement. Il promet de faire la paix en 30 jours.
En Indochine.
En Indochine. Et 30 jours plus tard, la paix est réalisée.
Il a suscité un espoir fou.
Extraordinaire.
Hein. Oui.
Or, cet homme qui a vu les sondages montés en sa faveur, qui a vu un mouvement d'opinion extrêmement favorable, eh bien, au bout de 7 mois et demi, doit quitter le pouvoir parce qu'il a contre lui une coalition de partis qui ne s'entendent pas entre eux. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution de rechange. Alors, quand arrive la guerre d'Algérie, c'est une catastrophe parce que aucun gouvernement n'est assez fort, n'a une majorité assez forte pour imposer à l'armée et imposer aux Français d'Algérie une solution qui pouvait être celle que les Anglais, que les Néerlandais avaient prise avec leurs colonies, n'est-ce pas ?
Et on prend même le chemin contraire, c'est-à-dire c'est la surenchère militaire.
Exactement, exactement. Alors, nous avons vécu cela, ma génération, véritablement de manière dramatique. On pensait que c'était une erreur folle, que de faire une guerre qui faisait des morts de part et d'autre et qui n'aboutissait à rien. Guy Mollet, le chef socialiste du gouvernement, avait dit au cours de la campagne électorale de 1955, fin 55, il parlait de la guerre d'Algérie en disant « c'est une guerre imbécile et sans issue ». Et une fois au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas pu résister aux pressions, aux lobbies, à l'armée surtout. Et la guerre s'est continuée jusqu'au drame de 1958 et le retour de Gaulle au pouvoir.
Qui a tenté de régler la question. Et en tout cas, tout cela a abouti aux accords d'Évian de 1960.
Oui, laborieusement. Mais ils n'ont pu aboutir que parce qu'il y avait évidemment un chef d'État. Qu'il y avait un chef de gouvernement et un chef d'État, c'était la même chose, du reste, dans l'esprit de Gaulle.
L'Algérie va nous permettre de reprendre le fil de l'actualité en Afrique, cette fois.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez à nous écrire. Je salue Michel Vinocq. Aujourd'hui, comme chaque semaine, quelques auditeurs africains. Bonjour aujourd'hui à Jean-Marie qui nous écoute à Yaoundé. Il salue, et nous aussi donc, Madeleine à Bameka à l'ouest du Cameroun, Alex à Bafoussam et Almardi à N'Djamena au Tchad. Bonjour également à Nazerwa à Lomé, Alseniba à la baie en Guinée, Stanislas à Bukavu. Un salut à Josué à Bamako, Babacar à Bordeaux, Ferdinand à N'Djamena. Enfin, bonjour à Ama Moussa qui travaille à la radio Enfani de Zinder au Niger.
Sept jours en Afrique.
Et nous partons au Mali. Michel Vinocq, Sophie Petronin, dernière otage française dans le monde, a donc recouvré la liberté au Mali jeudi. C'est l'aboutissement heureux d'une longue attente, très longue attente de 4 années. Florence Boris.
Les premiers mois, c'est le silence. Pas de traces de vie de Sophie Petronin, aucune revendication. Il faut attendre juillet 2017 pour que le GSIM, le JNIM, selon son acronyme en arabe, diffuse une vidéo montrant la septuagénaire. À la fin de l'enregistrement, un homme en appelle à l'intervention d'Emmanuel Macron, un signe que les ravisseurs sont prêts à négocier, pense alors la famille de l'otage, qui croit encore à un dénouement proche. Mais les mois passent et Sophie Petronin reste captive. Mi-juin 2018 sort une nouvelle vidéo. L'humanitaire française y apparaît. Très fatiguée, visage émacié, c'est elle qui en appelle alors au président Macron. En novembre de la même année, ses ravisseurs affirment dans un nouveau message que son état de santé s'est dégradé. Cette fois, elle n'apparaît pas. L'inquiétude grandit parmi ses proches. Quelques semaines plus tard, son fils Sébastien Petronin accuse la France d'avoir refusé une proposition inespérée des ravisseurs. Lui qui, à cette époque, multiplie les voyages au Sahel en accord avec le Quai d'Orsay pour tenter d'établir un contact avec ses ravisseurs. En 2019, aucune nouvelle de Sophie Petronin, au point qu'en décembre, pour le 3e anniversaire de l'enlèvement, son mari reproche à Paris de l'avoir oubliée. Il se demande si elle vit encore. L'espoir renaît au printemps dernier, lorsque les autorités reçoivent au Quai d'Orsay le fils de Sophie Petronin, pour selon lui l'informer qu'il détienne une preuve de vie fiable datant du début du mois de mars.
Sophie Petronin a été libérée en même temps qu'un prêtre et un jeune Italien, ainsi que l'homme politique malien Soumaïla Cissé, enlevé le 25 mars dernier. Soumaïla Cissé, ancien candidat à la présidentielle, devenu une figure politique emblématique, a fait un retour triomphal parmi ses partisans, debout les bras levés à travers le toit ouvrant d'une voiture. Alors sur sa libération, les explications cette fois de David Bachet.
En pleine campagne pour les législatives, Soumaïla Cissé est enlevé près de Niafunké, région de Tombouctou, son fief. Son garde du corps est tué, une dizaine de membres de sa délégation, enlevés avec lui, seront quant à eux libérés graduellement. Selon certains d'entre eux, les ravisseurs se seraient revendiqués d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'enlèvement de Soumaïla Cissé n'a jamais été revendiqué. Le gouvernement a mis en place une cellule de crise. Il y a aussi celle de l'URD, le parti de Soumaïla Cissé, et de multiples initiatives individuelles, comme celle de l'imam Mahmoud Diko. Des discussions avec les ravisseurs ou avec des intermédiaires sont entamées. Les mois passent. Mi-juin, le président Ibeka assure que Soumaïla Cissé est en vie, que ses geôliers sont identifiés et que, s'il plaît à Dieu, il reviendra bientôt. Fin août, le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, transmet à sa famille des lettres de Soumaïla Cissé, écrites un mois plus tôt. Depuis la prise du pouvoir par la junte militaire du CNSP le 18 août, rien n'a filtré de l'avancée des négociations avec les ravisseurs. Rien jusqu'au dénouement.
Suite d'une semaine d'actualité, sachez aussi, puisque nous parlions de l'Algérie des années 50, que dans l'Algérie des années 2020, un militant du mouvement de protestation contre le pouvoir en Algérie, Yassine Mebarki, a été condamné jeudi à 10 ans de prison pour incitation à l'athéisme et offense à l'islam, la plus lourde peine jamais prononcée contre une personnalité du Irak, vous savez, ce soulèvement populaire pacifique, débuté en février 2019 pour réclamer un changement du système dans le pays. Nous allons repartir dans la France des années 50 avec vous, Michel Vinocq, et vous nous expliquez très bien votre scolarité, l'importance de l'école primaire, de votre scolarité aussi au lycée Lacanal. Et après le bac, vous avez commencé à nous le dire, vous avez voulu travailler. Vous avez travaillé quelques mois dans une compagnie qui m'intrigue, qui s'appelait la Compagnie du Niger. De quoi s'agissait-il ?
Oui, c'était une compagnie d'import-export qui appartenait à un groupe international, les huiles vertes, Astra, etc. Alors cette Compagnie du Niger, eh bien, elle recevait les commandes de tous les comptoirs qui se trouvaient dans l'Afrique francophone. Elle faisait les achats conséquents pour ses clients et elle les facturait et par conséquent elle les envoyait en Afrique. Donc c'était l'intermédiaire entre une demande africaine et une offre française. Et là-dedans, moi, je me suis retrouvé parce que je voulais travailler, je voulais gagner ma vie après le bac, pour des raisons personnelles, je dirais, que j'explique dans ce livre. Et cependant, je me suis inscrit quand même en IPOCAI par correspondance. Ouais. Alors, je faisais mon travail de vérificateur de factures au Niger pendant la journée, et le soir, je me précipitais sur mon dictionnaire Gaffio pour faire mes versions latines, ou sur ma feuille blanche pour faire mes dissertations de français. Alors, à ce moment-là, je voulais faire d'abord peut-être une carrière dans l'import-export, et plutôt une licence de lettres. Donc, j'ai été très encouragé par mon frère aîné, auquel je me confiais et auquel je disais « Écoute, vraiment, je m'ennuie à mourir là-dedans. » Alors, je gagnais bien ma vie. C'était évidemment ce qui m'y retenait.
C'était tentant.
Mon salaire était très supérieur au SMIC, n'est-ce pas ? Et puis, il y avait des avantages. On avait le week-end complet, alors que dans d'autres sociétés, on travaillait le samedi matin, enfin, etc. Donc, j'ai été au début un peu partagé. Et puis, ensuite, non. C'est plus possible. Et alors, mon frère m'a vraiment encouragé. J'ai quitté, à la fin de l'année, le Niger, si je puis dire, la Compagnie du Niger.
Pour la Sorbonne et l'histoire.
Dont le siège était à Saint-Philippe-du-Roule. Et je me suis définitivement devenu historien. Non, au départ, je faisais donc ma licence de lettres. Ça continue l'année suivante, jusqu'au moment où j'ai découvert, ébloui, l'enseignement de l'histoire par les grands maîtres historiens de l'époque. Et c'est ainsi qu'en 1957, ma voie a été trouvée, tardive, mais trouvée.
Et c'est ainsi qu'est né Michel Vinocq, l'historien, auteur d'une œuvre qu'il faut évidemment, dont beaucoup d'éléments sont devenus des livres de référence. À propos de cette période des années... Il faut lire ce livre qui est à la fois qui va intéresser les historiens à l'avenir. Hein, c'est un témoignage que vous livrez à vos confrères du futur. C'est un livre très attachant, très humain que vous avez écrit, Michel Vinocq. Et vous faites à la fin une réflexion d'ordre général sur cette époque. Et vous écrivez ceci. L'époque dont nous parlons, c'est-à-dire l'époque des années 40, la fin des années 50, 60. Cette époque dont nous parlons est encore celle où le collectif prime sur le particulier. Ça m'a intéressé. C'est une des grandes différences.
Oui,
qui sépare, en fait, c'est,
pour
c'est,
moi, c'est indiscutable.
Cette période et notre période à nous.
Du point de vue de la civilisation, du point de vue des mœurs, c'est la grande coupure. Alors, elle s'est faite insensiblement. Ça n'a pas été d'un seul coup. Mais dans les années 40-50, il est certain qu'on est d'abord avec. Avec quoi ? Eh bien, avec des coreligionnaires, avec des condisciples, avec des camarades, avec des amis, avec des co-syndiqués, avec... bon, etc. Aujourd'hui, l'individu est de plus en plus isolé. Alors, attention, je ne veux pas dire que c'est l'enfer, parce que il y a, dans les deux cas, des aspects négatifs et des aspects positifs. L'épanouissement de l'individu, je n'ai rien contre.
Mais on ne fait pas de la même société, selon que l'on parle
exactement.
Collectif ou que l'on
Mais parle le problème, c'est qu'on s'enferme dans son propre cas, dans sa propre individualité. Que l'on s'épanouisse par le sport, la lecture, etc., par une vie, je dirais, sentimentale, sexuelle, libérée, etc. Bon, pourquoi pas, bravo. Mais si on ne pense qu'à sa propre promotion, sa propre vie, on perd beaucoup. On perd beaucoup parce que dans ces années-là, quand même, il me reste, je ne dirais pas la nostalgie, mais il me reste quand même une idée très forte de la collectivité, de l'amitié, de la solidarité.
Le mot-clé. Michel Vinocq, vous parlez beaucoup de votre classe de philo, la plus belle année de votre vie, écrivez-vous. Il faut lire ce livre pour comprendre ce dont vous parlez. Et on va terminer avec ça, il nous reste quelques secondes. Vous avez toujours été un lecteur de journaux, vous avez toujours suivi l'actualité. Vous nous parlez dans ce livre de l'Express, du grand magazine Express, du bloc-notes de François Mauriac. Vous avez toujours dévoré, en fait, l'actualité.
Toujours. Et j'ai commencé à lire un journal quotidien alors que j'étais en classe de première en 1954. C'était Le Monde en l'occurrence et je le lis toujours aujourd'hui.
J'allais dire évidemment.
Mais il y avait l'Express. Et l'Express qui était peut-être plus intéressant, plus coloré, plus piquant, c'était un hebdomadaire. Et puis un beau jour, au mois de décembre 1955, sa direction, Servan Schreiber et Françoise Giroux, ont décidé de le transformer en quotidien, pour la campagne électorale qui avait lieu le 2 janvier 1956. Et alors c'est quand même un journal extraordinaire à l'époque, puisque outre François Mauriac, vous aviez des gens comme Albert Camus, vous aviez plus tard des interviews de Jean-Paul Sartre, c'était d'une très haute tenue, c'était un journal magnifique. Et puis le journal, après quelques mois, est redevenu un hebdomadaire, ce qu'il est toujours.
Ce qu'il est toujours, mais c'est pas tout à fait le même journal.
Non.
Il faut le dire, Michel Vinocq. Merci en tout cas d'être venu nous voir et d'avoir joué le jeu de l'actualité. Je recommande vraiment votre livre qui s'intitule Jours anciens, publié dans la collection Blanche de chez Gallimard. On y apprend beaucoup de choses, non seulement dans le domaine politique, mais aussi sur le plan humain, sur cette époque. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idées. Notre invité sera Guillaume Blanc, qui est historien, spécialiste de l'Afrique. Il vient de publier un livre, Michel Vinocq, une enquête historique passionnante sur la création des parcs nationaux africains dans le sillage de la décolonisation, mais avec en quelque sorte un esprit néocolonial, où l'on comprend par exemple que, selon l'auteur, ces parcs naturels reflètent en quelque sorte un fantasme occidental sur la nature africaine qu'il faut préserver en y excluant quasiment les populations locales. Un ouvrage en tout cas qui donne à réfléchir. Idée demain dimanche à 17h10 heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.